spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 17 janvier 2018, 14h05, oh mon dieu, un petit peu de retard. Émission numéro 152, Christophe Rollin au micro comme tous les mercredis et nous sommes bien accompagnés, Gérald est avec moi ainsi que Pierre Maillet pour la pièce qu'il met en scène, Cooking with Elvis, dans la cuisine d'Elvis. Il joue également dans cette pièce. C'est donné dans la petite salle qui s'appelle la Célestine au Célestin. Ça a déjà commencé la semaine dernière, le jeudi 11 janvier. Oui, mais c'est encore donné jusqu'à ce dimanche 21. C'est très bien. C'est donné 20h30 en soirée, 16h30 le dimanche. Et donc, pour en savoir plus, écoutez l'émission. Bien entendu, il y avait des questions de Elvis Presley. Donc, on va commencer avec du Elvis Presley, Jailhouse Rock. Pierre va nous en parler jusqu'à la fin d'émission qui est à 15h comme tous les mercredis. Commençons par de la musique. Vous nous écoutez sur le 102.9 de la bande FM si vous le faites à Lyon ou bien sur radiocanu.org si c'est sur Internet. Un peu brutal, un peu direct. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour Gérald.
Bonjour.
Vous êtes ici, peut-être petite légère promotion pour les Célestins. Il y a un autre spectacle donné sur la grande scène et vous n'êtes pas ici, Pierre Maillet, pour parler de Margot d'après Massacre à Paris, une pièce de Christopher Marlowe. Enfin, disons, le texte de Christopher Marlowe, mais la mise en scène actuellement est de Laurent Brotome. Ça commence ce soir, je crois, le 17 janvier jusqu'au 24, jusqu'à mercredi prochain. 2h30, scène principale, vraiment quelque chose d'assez grand, peut-être en reparlerons-nous, mais vous, Pierre Maillet, vous êtes ici pour cette petite sympathique, délicate, elle est bien cette petite salle qui s'appelle la Célestine, vous êtes là pour parler de la cuisine d'Elvis, et il me semblait même qu'il y avait la préposition dans la cuisine d'Elvis, non vous avez tout à fait, c'est simple.
Ah non.
La cuisine d'Elvis. Un texte de Lee Hall, une pièce écrite en 1998. Ça fait quoi? Ça va faire... En 2018, ça lui fait 20 ans.
Ça lui fait 20 ans, ouais.
20 ans à cette pièce.
Ah, c'est bien, on lui fait son anniversaire.
et vous êtes là parce que vous êtes le metteur en scène, oui, avec cette compagnie des
Lucioles. Ah, c'est bon, le metteur en scène.
Et puis, vous incarnez le King himself, le King lui-même. Donc Pierre Maillet, peut-être pour commencer, je ne vais pas vous demander de retracer votre vie, votre carrière qui vous a mené à ce micro, puisque, auditeur, émission numéro 36, le mercredi, c'était je crois le 4 juin 2014, ça va faire près de 4 ans, vous étiez venu pour parler d'un texte que vous mettiez en scène également, je crois que vous étiez metteur en scène.
Ah non, là je jouais dedans.
Non, vous jouiez, alors je confonds tout. Dans La République du Bonheur de Martin Crimp. Martin Crimp, un auteur anglais. Allez, voilà, peut-être commençons les questions.
Encore un.
Le théâtre, voilà, le théâtre européen vous intéresse, entre Fassbinder et Handke, entre Coppi et... Je sais pas d'autres noms italiens, c'est ça, en tête. Non, ou c'est argentin, Coppi, ou
c'est Coppi, c'est argentin, ouais.
Alors, je prie Gelbourg, comme ça peut faire un deuxième argentin.
Voilà.
Là, ça fait Crimp et Lee Hall, ça fait deux anglais. Pierre Maillet, pour peut-être parler un peu de vous, est-ce un goût que vous avez vous-même, ce théâtre européen, ou disons même mondial, puisqu'on a évoqué des auteurs argentins, ou bien est-ce que c'est propre aux Lucioles? Et donc, pourriez-vous nous parler un peu des Lucioles? Vous l'aviez déjà évoqué il y a de cela, émission 36, ça fait plus de 100 émissions. Mais voilà, pourriez-vous peut-être, avant que nous parlions plus précisément de cette cuisine d'Elvis, pourriez-vous retracer très légèrement, enfin, faire un portrait de vous, peut-être que retracer votre histoire
C'est-à-dire, les Lucioles, en fait, c'est un collectif d'acteurs donc, qui a été créé il y a... je compte plus, mais enfin, ça fait plus de 20 ans maintenant.
En 2014, ça faisait 20 ans, c'est ça?
On en parlera quand on en aura 30. Non, mais c'est une histoire un petit peu atypique parce qu'en fait, on s'est rencontrés tous à la première promotion de l'école du TNB, le Théâtre National de Bretagne à Rennes. Et à la suite de ça, on a eu envie de continuer à travailler ensemble à une époque où les collectifs n'existaient pas beaucoup. Et puis surtout, nous, on savait tout à fait ce qu'on ne voulait pas faire, mais on ne savait pas forcément ce qu'on voulait faire. Donc ça a été une compagnie qui a été tout de suite assez libre, on va dire, comme un espèce de cadre dans lequel, puisque ce qui nous réunit, c'est qu'on est tous acteurs, et que nous, on considère que les acteurs peuvent aussi avoir des désirs et des envies de faire des choses qu'ils font pas ailleurs ou qu'ils ne voient pas ailleurs et tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est une histoire qui aurait pu s'arrêter comme elle avait commencé, puisque à côté de ça, on a tous des parcours individuels comme acteurs et même metteurs en scène. Mais au contraire, ça a créé une espèce de mutualité, d'émulation comme ça. Donc, il y a eu énormément de spectacles. Et on est donc plusieurs metteurs en scène à l'intérieur de cette compagnie. Mais c'est pas un collectif où on est tous. On fait pas des spectacles de mise en scène collective et tout ça. Ça dépend toujours du désir de l'un d'entre nous. Et on invite aussi d'autres acteurs, comme là c'est le cas dans la cuisine d'Elvis, qui font pas partie du collectif, mais qui. Donc voilà, c'est. Et puis depuis quand même l'émission 36, il y a eu un palier supplémentaire, c'est-à-dire que Martial Di Fonzobo et Élise Vigier, donc qui avaient mis en scène dans La République du Bonheur, Vera, La Estupidez, que vous avez
Vera
pu voir à
donné au Célestin en un an et demi, c'était début de la saison 2016-17,
la saison dernière, précédente. Ont été nommés directeurs de la Comédie de Caen. Donc, ce qui fait que maintenant, on a en plus une maison où on peut faire des choses et tout ça.
Un
pied à terre. Et puis moi, personnellement, pareil, depuis La République, donc je suis artiste associé à la Comédie de Caen avec eux, et je suis aussi artiste associé à la Comédie de Saint-Étienne, ce qui n'était pas le cas encore.
Alors, vous étiez sur le point de commencer, je crois, à parrainer une promotion sur 3 ans, me semble-t-il.
Exactement.
Et j'avais cru calculer que ça se terminait en 2017. Et,
voilà.
Et bien,
ils sont sortis en juin.
Mais vous avez continué avec la comédie, c'est ça?
Moi, je continue avec la comédie, puis je vais continuer avec eux, surtout, parce que ce qui était magnifique avec cette histoire, c'est que d'être parrain, ça veut dire qu'on est là au moment où ils passent le concours. Enfin, je sais pas, j'ai pris ça très, très, très à cœur. Et je suis vraiment leur parrain à vie, quoi. Donc, voilà.
Vous avez recruté pour les Lucioles ou c'est
Après, c'est vrai que c'est un esprit qui se perpétue, on va dire, alors qu'il prend plusieurs. Mais là, c'est vrai que cette bande-là d'acteurs de qui sont sortis donc en juin de l'école, il y en a 5 là qui sont en train de travailler en ce moment avec Martial et Elisa Caen, justement, sur un spectacle autour de Georges Méliès. Enfin. Voilà, c'est des histoires c'est des rencontres qui se nouent et puis qui vont continuer. Donc c'était un peu mon rêve de en faisant ça que ça crée quelque chose de qui va continuer.
Pour en revenir un tout petit peu au passé, qu'est-ce que vous ne vouliez pas faire ?
Alors, ce qu'on voulait pas faire, on n'avait pas envie justement d'être dans une espèce de fausse, comment dire, de faux ensemble. On s'est dit que si on avait envie de continuer ensemble, il fallait aussi que chacun puisse s'exprimer dedans. Donc, il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas d'obligation. On voulait pas qu'il y ait un metteur en scène qui représente tout le groupe, parce que finalement, là, maintenant, les collectifs sont revenus beaucoup, mais c'est quand même beaucoup ça. C'est ce qui se passait aussi beaucoup à notre époque. Mmh. J'ai rien contre, hein, mais enfin, en tout cas, nous, ça nous intéressait pas. Parce que là, il y avait la troupe de Nordet, mais c'est quand même Nordet. Il y a la troupe de François Tanguy, mais c'est quand même François Tanguy. Il y a Nouchkine, c'est pareil. Donc, c'est plus des idées de troupe que de collectif. Donc, nous, l'idée du collectif était plus dans comment chacun s'exprime et que ce soit un cadre pour chacun de. Et après, on voulait pas forcément faire des choses. C'est vrai qu'on n'a jamais monté de classique.
Voilà, j'allais le dire. Oui.
C'est donc ouais.
Il y a un point commun entre tous ces auteurs que vous avez mis en scène.
Il faut les nommer donc.
Hein. Alors il y en a quand même
Fassbinder,
pas mal.
Fassbinder, Handke. Oui, si, je suis revenu dessus tout à l'heure. Les donc deux Allemands, Peter Handke et Werner, c'est ça, Werner.
Rainer Werner. Rainer, Fassbinder.
Voilà. Fassbinder.
Il y a une noirceur dans tout ça.
Fausto Coppi, Raphaël Sprengelbourde.
Il y a une Martin noirceur. Krimp, mais je dirais que ce qui me touche. Chez tous ces auteurs-là que j'ai montés, c'est surtout une vitalité dans le drame. Enfin, c'est surtout des gens qui arrivent à parler de la vie d'une façon assez juste. Et puis d'ailleurs, Coppi ou Lyall ou Fassbinder, enfin, c'est peut-être ça qui les réunit, mais c'est pas du tout les mêmes formes d'expression, ni de langage, ni d'univers. Après, c'est vrai que ce qui me, moi, je suis aussi très sensible aux gens qui sont aussi cinéastes ou, enfin, qui ont un pied dans le cinéma et qui ont un pied dans le théâtre. Je suis très très cinéphile, moi. Si j'ai eu envie de faire ce métier, c'est grâce au cinéma. Enfin, c'est à cause du cinéma plutôt. Parce que donc,
au cinéma de Fassbinder peut-être aussi.
Alors Fassbinder, oui. Alors là, lui, si j'ai un maître, ce serait lui.
On en avait parlé dans cette émission 36.
C'est vrai que 45 films en 10 ans.
Et qui a écrit pour le théâtre également, c'est ça.
Et qui écrivait des pièces de théâtre.
Ce ne sont pas des adaptations.
Non, pas du tout. Donc c'est vrai que, et puis c'est pareil, c'est quelqu'un qui avait un groupe d'acteurs qu'on retrouvait tout le temps. Enfin, pour moi, c'est un modèle de d'intégrité artistique, de façon de parler des gens, d'une empathie. Et puis, moi, ce qui me touche souvent beaucoup, c'est-à-dire que c'est ce qui nous touche, ou ce qui nous fait rire, ou ce qui nous émeut, c'est aussi parce qu'il y a une force derrière. C'est-à-dire que, enfin, si c'est juste des choses déprimantes, bon. Moi, j'aime bien les auteurs, là, comme dans La cuisine d'Elvis, où le pitch est tragique, il faut quand même le dire. Mais c'est quand même des gens qui se battent pour continuer à vivre. Et donc, ça, c'est ça, moi, qui me touche le plus. Donc, et après, il y a aussi un rapport au. J'aime bien rendre hommage à des gens qui n'ont pas forcément, sont pas toujours forcément représentés sur scène.
Une
marginalité, soit décidée, soit parce que la vie fait que. Ça, c'est le cas des gens de La cuisine d'Elvis. Et c'est vrai que les gens qui arrivent à avoir cette justesse-là et cette vitalité, parce que quand même, s'il y a une chose qui est commune à nous tous dans Les Lucioles, c'est l'acteur. Donc c'est aussi qu'il y ait du plaisir de jeu, qu'il y ait un plaisir de plateau, c'est de la générosité. Et je pense que la complexité des sujets ou des, encore une fois, de ce qu'on pourrait vite fait dire comme ça, tragique ou dur ou... Ben non, en fait, ça peut être vivant et ça peut. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que ben on sort d'une salle de spectacle un petit peu plus changé que quand on y est rentré et de façon un regard sur l'humanité qui peut peut-être nous faire un peu changer les a priori, je sais pas, parce que c'est quand même, pour parler de La cuisine d'Elvis, c'est quand même des gens qu'on pourrait tout à fait stigmatiser dans des choses très caricaturales et peut-être quand on voit derrière les portes ce qui est le cas de cette pièce, on se rend compte que c'est pas si ça peut arriver à tout le monde et puis
c'est plus complexe que ça en a l'air.
C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air.
Petite tirade de MAM plus vers la fin de la pièce. Je ne fais que ça, Jill, avoir une conscience. Tous les foutus matins, je me lève et je ne pense qu'à ça. Et si on ne s'était pas disputé, si je n'avais jamais dit que je partais, et si... Mais c'est lui, Jill, c'est lui qui est parti comme un fou, je ne lui ai pas demandé de le faire. Et le pire, c'est que quand je suis allé là-bas, que je l'ai vu, etc. Enfin voilà, ça continue. Je pensais à cette réplique parce que voilà, vous disiez... C'est bien cette question, hein, Gérald. Par défaut également, on peut tracer la chose. Que ne voulez-vous pas faire et donc que voulez-vous faire? Donc faire du vivant, enfin donner un peu de
faire
vie.
Faire du vivant.
Et là, donner... pour le coup, se lever tous les matins. C'est...
Ouais, oui. Et donner la parole à ça. Enfin voilà, je trouve que on parlait tout à l'heure de Pierre Molinier ou de ces. Pour moi, c'est des figures. C'est vrai que la liberté elle a plein de formes dans la vie. Donc le plus important, c'est qu'on en profite le plus possible et surtout, je sais pas, s'enlever beaucoup de vernis sur les yeux, quoi. Je sais pas, de regarder les choses un peu pour ce qu'elles sont et pas toujours parce qu'elles sont provocantes. Enfin,
ah, il y a quand même un peu de provocation là-dedans pour la pièce elle-même.
Moyen, mais voit une fin. Ouais.
Oui.
Peut-être. je crois, les amis, que nous sommes fin prêts à parler de, plus précisément, même on est déjà en train d'en parler de cette pièce, coup, La cuisine d'Elvis de Lee Hall. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est tout d'abord indiquer que Mathieu Cruciani, qui joue Stuart dans la pièce, je crois qu'il est stéphanois, hein, c'est ça. Enfin, du moins, il était à la Comédie de Saint-Étienne, ouais, et donc c'était déjà à l'époque lorsque nous sommes rencontrés, c'était pour Non Réconcilié qu'il mettait en scène, dans lequel il ne jouait pas. François Bégodeau jouait. Il y avait également d'autres comédiens.
Il y avait Émilie Caplier et Philippe Durand.
C'était une équipe de radio sur ce match de foot, ouais. Gérald, Lyon-Saint-Etienne, sur cette opposition. Et donc c'est pour ça qu'on s'était revu un peu après pour la République du bonheur de Martin Krimp. Oui, Gérald.
Avant de rentrer dans le cœur de l'émission.
Moi, je proposais d'écouter un titre de Elvis. Mais non, mais je t'en prie.
Alors, juste avant le titre, j'aimerais bien faire que j'ai trouvé sur le site des Célestins. J'invite les auditrices et auditeurs à consulter. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques? Il y a 5 critiques. Mm-hmm. Alors, j'ai dit toutes, et puis peut-être avant de lancer le morceau, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Après, c'est le fameux teaser. Reste à l'écoute, auditeur. Que pense Pierre Maillet de ce que Gérald Vallière, je t'en prie?
Surfant sur le rire jaune, entre parenthèses, et l'émotion, Pierre Maillet installe une atmosphère onirique et évite le piège du réalisme bonne dégustation, par les échos. Sans dénaturer la charge d'amoralité de la fable jouissive, Pierre Maillet nous comble avec ce monument de l'humour anglais, Les Inrecuptibles. Le spectacle aussi entre humour décapant et tendresse pour les personnages, dans un équilibre savamment dosé, théâtre du blog. Et enfin, on est happé par la profondeur avec laquelle chaque acteur donne vie à son personnage. Ici, nul trait forcé, La Terrasse. C'est pas mal, hein.
Bon, alors, Blue Moon. Écoutons Blue Moon de Elvis. Ce n'est pas Pierre Maillet qui va chanter, c'est bien la version de 1956.
Chante mieux que moi.
Quand même.
Et puis ensuite, nous reparlerons. Allez, bon, je refais encore
et de la musique.
Encore une fois, nous reparlerons non pas de Margot. Putain, on n'a pas pu le voir. Hein. Margot commence ce soir. C'est sur la scène principale.
Laurent Breton. On a plein de copains nous dans Margot.
Ah bon, alors, c'est grand spectacle. Hein, beaucoup de comédiens présents sur scène. Nous parlons plutôt. Nous parlons de la Célestine. Le spectacle qui est donné, La cuisine d'Elvis, est très bon. Nous l'avons vu, Gérald.
1h40, qui passe très très vite, jusqu'à dimanche 21.
J'ai écrit, Gérald, moi sur le blog, j'ai écrit intelligent et désopilant. Donc on va peut-être commenter tous ces termes. Ça a déjà commencé, c'est très bien, le jeudi 11 janvier, mais il reste encore quelques dates, même plusieurs dates.
À 20h30.
Jusqu'au dimanche 21.
Avec un bord de scène ce soir.
20h30, les soirées, et 16h30 pour dimanche. Blue Moon de Elvis Presley, et nous continuons sur Spectaculaire Radio Canu.
Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Without love of my own,
saw me standing alone without a dream in my heart, without love of my
morceau. Était-ce presque un slow blue moon? Je l'apprends à l'instant.
Un blues.
Ciel, les émissions sont-elles bien préparées? Oui, auditeur, hein, généralement, régulièrement, c'est la chose, mais peut-être moins sur ce titre. Pierre Maillet, metteur en scène et comédien, me dit à l'instant que non, Blue Moon n'est pas dans le spectacle de Elvis. Cette version de 1900, c'était quelle date? 1956. En revanche, il y a d'autres chansons d'Elvis Presley, puisque le nom de la pièce de Lee Hall, écrite en 1998, Cooking with Elvis, la cuisine d'Elvis, vous en assurez la mise en scène. Vous êtes également comédien, et ça peut faire la matière une question. Vous êtes un comédien étrange, puisque vous n'avez aucune interaction avec les autres sur scène.
Ah non, c'est très...
Donc bref, vous pouvez répondre à cela, ou alors plus généralement, 14h25, presque auditeur, il nous reste encore une énorme demi-heure pour parler de cette pièce, qui est donc donnée jusqu'à ce dimanche 21 janvier, 20h30 en soirée, 16h30 dimanche. Pierre, comment est-ce qu'on peut en parler, faire un récit, les thèmes, les inspirations de Lee Hall ou bien les vôtres pour la mise en scène aussi, je ne sais pas.
Bah, c'est-à-dire, moi c'est une pièce qui m'a...
Comment vous l'avez découverte?
C'est ça, c'est parce que ça c'est par contre une chose, je crois que c'est la seule fois que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que comme je vous le disais avant, je suis assez sensible aux artistes qui sont à la fois dans le cinéma et dans le théâtre, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui pour moi dans la sensibilité, la façon de parler des choses... comme on disait, alors Fassbinder, Pasolini, tout ça, bon.
Billy Elliot.
Et voilà. Et Lee Hall, bon, c'est vrai que c'est un scénariste en fait, lui. Hein, il n'est pas du tout metteur en scène ni cinéaste.
C'était pour la radio à la base.
Dramaturge.
Au tout départ, et dramaturge. Mais au tout départ, moi, voilà, je l'ai lu par curiosité parce que bon, j'aime beaucoup Billy Elliot, qui, comme la cuisine d'Elvis, n'est pas si commercial qu'il y paraît.
Enfin, anodin,
Comme, ben non, c'est pas juste l'histoire d'un petit gamin qui veut danser. Enfin, je veux dire, c'est aussi tout le portrait de, quand même, d'une Angleterre. C'est l'Angleterre de Thatcher, les mineurs. Enfin, bon, c'est surtout. Et puis, encore une fois, une histoire familiale un peu dure. Et ça a l'air d'être un peu son thème de prédilection. Et l'enfance et la maladie. Il y a toujours un peu. Et quand même une certaine façon de parler du prolétariat où on sent bien qu'il en vient, quoi. C'est pas des fantasmes. Et avec quand même aussi une belle façon d'écrire qui est à ses propres scénarismes. Ce qui m'a frappé avec La cuisine d'Elvis, c'est la façon dont c'est écrit. Les dialogues sont incroyablement. D'ailleurs, c'est très très bien traduit, ce qui n'est pas toujours le cas.
Vous ne l'avez pas découvert donc sur scène, ce texte?
Vous l'avez lu? Je l'ai lu, encore une fois, par curiosité, en me disant, bah tiens, la pièce d'un scénariste, c'est quand même une chose qui n'existe pas souvent. C'est vrai qu'à partir du moment où il a fait Billy Elliot, il a plus ou moins quand même laissé tomber le théâtre, et maintenant il est beaucoup plus scénariste.
Ah, c'est terrible. Les éditions de l'Arche indiquent, je crois, ou je ne sais plus où j'ai lu ça, qu'il s'est installé aux États-Unis.
Oui, c'est ça. Billy Elliot, je veux dire, il est le seul scénariste du film. Enfin, ça a été un carton tellement mondial
Lee Hall,
du coup,
également le scénariste du film Billy Elliot, vit aujourd'hui à Hollywood.
Voilà, comme son compatriote Stephen Daldry, qui a réalisé Billy Elliot et qui vient de la même bande d'artistes de théâtre anglais de cette époque, la fin des années 90. Et donc, moi, complètement par curiosité, je l'ai lu et je suis restée scotchée. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, mais ça, c'est ma prochaine pièce. Mais parce que vraiment, déjà, parce que moi, la thématique comme ça des familles qui implosent alors que tout allait bien avant, Enfin, on va dire, c'est ça aussi, c'est que c'est pas du tout une famille à problème. Il y a une catastrophe qui se passe.
À quel degré ça allait bien ? Il est question de violence conjugale hein, dans un moment.
Oui, c'est très allusion. Léger. C'est il y a une petite voilà. allusion, mais
à moi, des yeux au bernois. Hein,
je me dis que c'est. Je pense qu'elle lui rendait l'appareil. Enfin, je pense pas que c'est une femme battue. Je pense que c'est un couple complètement passionné. Enfin voilà, je pense qu'il avait aussi des yeux au bernois. Bon après, on.
C'est ce que lui dit sa fille d'ailleurs.
Je n'ai pas l'impression. Voilà, c'est ça. J'ai pas l'impression
c'est
que
terrible, comme réplique.
Ce soit. Mais c'est ça qui est beau dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a tous ces thèmes-là qui passent, qui peuvent être absolument tragiques, ou même le fait de dire des gens ce qu'ils sont, c'est plus des choses qui n'existent pas, enfin de dire que cette femme, moi ce que j'adore c'est que la mère n'est pas la cougar annoncée, n'est pas l'alcoolique annoncée, c'est juste une femme qui a 38 ans et qui a envie de continuer à vivre malgré tout ça, et on la comprend, enfin je veux dire à un moment donné c'est la petite qui aime faire la cuisine, c'est pas parce qu'elle aime la cuisine qu'elle est forcément obèse, même si tout le monde la traite de grosse. Et pareil pour le jeune homme qui rentre dans cette famille, c'est pas forcément un pervers machin qui couche avec tout ce qui passe. Donc c'est quand même des gens qui ont des histoires
qui deviennent touchants finalement.
Qui deviennent touchantes avec lesquelles on peut se dire oui ça pourrait nous arriver. Enfin c'est quand même une catastrophe qui arrive à l'intérieur d'une famille. Qui fait que en plus la pièce commence 2 ans plus tard, donc on n'est pas dans l'immédiateté de l'accident, donc il y a une habitude aussi, c'est de ça dont il parle très bien, c'est l'habitude de vivre avec un homme infirme à la maison, comment tout ça c'est une pièce extrêmement riche je alors, trouve,
pour,
vraiment
on pourrait peut-être résumer parce que nos auditeurs
oui,
qui n'ont pas
que
vu
là,
la pièce,
coup,
je vais lire
vite.
Le truc du site comme
et
ça
puis,
ils seront
à l'instant
fixés.
Quand même, on évoquait le texte pour ce texte, moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il me semble qu'une ou deux fois il est qualifié de tétraplégique cet homme-là et d'infirme, mais sinon la plupart du temps il est nommé dans le texte comme étant un légume, voire haricot vert. Donc c'est quand même un texte qui
c'est vrai, jaune,
à la lecture en général, on pourrait le dire, nous avons passé, puisque nous l'avons lu, avant de le voir, et nous avons passé un bon moment. Hein. C'est
oui,
vraiment étrange, c'est à la fois drôle.
Du bien de rire jaune sur de l'humour très noir.
Drôle, quoi.
Ça fait du bien, une catharsis, hein. C'est le mot de la fin, je crois d'ailleurs.
Oui, c'est incroyable, parce qu'une bonne catharsis peut faire du bien.
C'est la fin, je crois que c'est la dernière réplique. Je vais lire quand même pour les auditeurs qui n'ont pas vu la pièce.
Un pitch, c'est ça ? Plus ou moins le pitch.
Donc, bon, tout le monde aura compris que c'est un huis clos. Donc c'est un quatuor d'acteurs. C'est une comédie dramatique à intervalles musicaux ou cabaret tragicomique. Voilà comment Pierre Maillet définit la pièce de Lee Hall. Ici se raconte par les yeux de l'adolescente fan de cupcake une tranche de vie d'un trio familial au bord de la crise de nerfs due à l'irruption d'un amant pâtissier de passage. Clin d'œil à l'ange perturbateur du film Théorème de Pasolini. C'est surtout du côté des comédies sociales so British de Ken Loach et de l'humour caractéristique des Monty Python qu'il faut aller chercher une parenté. Les monologues du père paraplégique ou tétraplégique, enfin bref, dans un fauteuil, sosie d'Elvis au temps d'avant la chaise, élargissent les murs vers un club de seconde zone en banlieue de Vegas, tandis que mère et fille se cherchent des poux dans la cuisine. C'est amer et piquant, mais c'est surtout un texte grinçant contre les idées reçues et la volonté facile d'enfermer les choses et les gens dans des carcans trop étroits.
Exactement.
C'est un bon résumé.
Là, vraiment, c'est un très bon résumé.
Comment qu'il écrit. Hein. Bah,
surtout que vous êtes cité. Moi aussi, je voulais mettre ces termes-là sur le blog. Je les ai trouvés sur un dossier de presse, je crois, des Lucioles. Ce sont des mots que vous avez. Cabaret, je crois, c'est ça, Gérald. Tu disais un
cabaret musical. Cabaret tragicomique.
Un cabaret tragicomique.
Ou comédie dramatique. Il y a un peu tous ces ingrédients-là. Hein, avec de l'humour noir, so British.
Oui, et puis, encore une fois, moi, je trouve que c'est ce que les Anglais font très, très bien. C'est cette façon, comme ça, de prendre les choses de manière frontale. Et de les assumer. Et donc c'est vrai que plus les choses sont justes et plus elles nous font rire, plus elles nous émeuvent en fait. Moi je trouve que c'est une pièce où on ne se moque pas des gens, bien au contraire. C'est vraiment une chose qui m'a. Après je pense qu'elle pourrait être montée de façon. J'ai vu quelques photos, quelques extraits de façon beaucoup plus caricaturale et tout ça. Mais moi j'avoue je ne comprends pas très bien. Parce que c'est extrêmement fin dans quelque chose de très franc. Alors c'est
pas ça peut être casse-gueule aussi justement.
Parce que des fois on est à la limite.
Prenons un exemple
peut-être. Pour moi, je pense que c'est l'anti-stéréotype cette pièce. C'est pour moi vraiment.
Le personnage de Stuart,
oui.
Qui est vraiment finement, délicatement Et également superbement et splendidement, je trouve, joué par Mathieu Cruciani. Mm-hmm. Et c'est peut-être, voilà, c'est toujours le problème peut-être de l'exemple ou du symptôme ou du signe, mais moi, il me semble que ça peut être symbolique de la pièce, puisque ce personnage, à la lecture, on peut effectivement trouver qu'il est assez ridicule ou je ne sais quoi. Et ben non, il y a une autre épaisseur chez lui. Et d'ailleurs, c'est bien joué à la fois dans des répliques qu'il peut avoir parfois, ah ouais, la vache, ou je sais pas, ou des choses comme ça. Mmh. Mais aussi.
Le faux innocent.
Oui, voilà, il y a quand même quelque chose chez lui qui est assez.
C'est un être bon, en fait. C'est la bonté même, Stuart, pour moi.
Ce serait dommage.
Une empathie totale.
Ce serait dommage qu'on se moque de lui. Mmh. Oui. Et Léo, non, ne le fait pas dans le texte.
Il ne le fait pas du tout. Et je trouve qu'en fait, cette façon de... Parce qu'il y a une chose aussi qui est en sous-texte tout le temps dans la pièce, c'est que, pour le coup, lui, c'est un vrai prolétaire. C'est vraiment un gamin qui vient de voilà, qui a pas beaucoup de moyens.
Bah, à l'école, il s'est arrêté assez tôt, dit-il.
Voilà, on croit comprendre que, en plus, sa mère est plus ou moins aussi, je pense, parce que tous les trucs qui font beaucoup rire les gens, mais en même temps, il le dit réellement. Il dit qu'il a l'habitude de s'occuper de la firme, qu'il a son brevet de secouriste et tout ça. Et donc, quand il voit le père dans son fauteuil roulant, lui n'a pas du tout la réaction qu'on pourrait tout savoir, dire que comment on fait, enfin, je veux dire, pour l'aider, pour machin. Lui, il y a une habitude de ça, ça lui fait pas peur.
La toute première scène, c'est vrai, c'est pas tant, il se retrouve donc dans une situation, dans un appareil très simple. Je tente d'en dire très peu. Mais il retourne la scène en disant non, mais ça va.
Il reste droit dans ses bottes malgré tout.
Il n'y a pas de problème. Et Mathieu Cruciani est vraiment bon, je trouve.
Non, mais il faudrait quand même rendre hommage à l'excellent travail d'actrice de Cécile Bournet, qui interprète l'adolescente de 14 ans, qui joue Gilly, et Anne-Élodie Sorlin, qui fait Mam, donc la mère.
Eh ben alors, nous tenons, Gérald, le metteur en scène, il faut le questionner. Comment est-ce que vous faites? Alors, la direction d'acteur, c'est quoi? Il y a une grande part laissée libre à sorte une forme d'improvisation, ou au contraire, il y a vraiment le moindre geste est vraiment dicté, indiqué?
Pour cette pièce-là, c'est assez particulier, parce qu'elle est à la fois extrêmement précise, parce qu'elle est magnifiquement bien écrite au niveau des dialogues et tout ça, donc c'est aussi une pièce qui est très rythmique, mais je dirais que c'est une rythmique affective qu'il faut trouver, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tranquille avec ce qu'on fait, tout mon travail à moi, ça a été tout le temps de les aider à déconstruire en fait d'être tout le temps juste avec ce qu'ils sont. Je sais pas comment dire. C'était un travail sur la justesse et jamais sur encore une fois s'il y a le moindre truc pour qu'on se dise ah ben voilà, c'est vraiment une alcoolo, ah tiens lui il veut vraiment, c'est dans les rapports, il y a quelque chose de très ils sont à la fois très libres mais à la fois très c'est à la fois très précis. C'est quand même une pièce qui est toujours
Ils ont plusieurs facettes, les personnages. Je suis en train de penser à Cécile Bournet qui fait souvent l'ado qui répond de manière monolithique.
Agressive. Non, et Robert.
Non. Voilà, mais et puis ça n'est pas que ça. Il y a également à un moment donné. Non, il ne faut pas trop en dire. Moi, j'allais parler d'une sorte de pin-up qui se déplace avec des talons. Enfin bref, il y a quand même différents passages. Et c'est vrai que la mère, prof d'anglais, elle le dit assez vite. Il me semble. Donc ce n'est pas trop dévoiler l'intrigue. Donc cette prof d'anglais qui effectivement a une vie. Ce n'est pas qu'une alcoolique ou qu'une prof d'anglais.
Elle n'est pas plus alcoolique.
Oui, non, exactement.
Qu'une autre.
Enfin, voilà, mais elle a souvent cette bouteille de vin. Et d'ailleurs, à la fin, le blanc, il n'en reste plus.
C'est
la même bouteille.
Mais c'est vrai que c'est vraiment des êtres très touchants. Et je veux dire, c'est là où on ne peut pas non plus les. Encore une fois, c'est quand même la middle class anglaise. Ce n'est pas des gens qui sont dans une détresse financière ou quoi que ce soit. Je veux dire.
À la réplique. La chambre. On a une chambre qu'on a payée avec l'assurance.
Oui. Mais tout ça, vraiment, si on se dit à un moment donné, c'est pas pour être méchant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que quand on vit quotidiennement avec ce genre de choses, on a l'habitude d'être avec. Donc, moi, par exemple, toutes les répliques que tu disais sur qu'on dit qu'il est un légume et tout ça, on se rend bien compte au bout d'un moment dans la pièce qu'elle l'aime encore et qu'elle lui parle quand elle est toute seule. Donc il y a une espèce de il y a plein de couches en fait qui fait que c'est vrai que sur le travail d'acteur, ce qu'on a souvent fait, ce qui est pour moi très juste, c'est que même le rapport entre la mère et la fille, c'est se dire qu'il n'y aurait pas eu cet accident du père, elle se parlerait comme ça. Parce qu'il y a aussi des fois un moment, quand une ado grandit, elle peut plus voir sa mère. Donc elle lui parle mal. Il n'y aurait pas le père au milieu, ça serait autre chose. C'est-à-dire que moi, c'est ça aussi que j'aurais... Et c'est ça qui est saisissant quand on l'écoute, mais qui pour moi me semble assez juste, c'est que c'est aussi une façon de grandir, une façon de se construire, et on se construit avec ça. Mais il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Enfin, c'est extrêmement tendre comme pièce.
Oui, pas de blanc ou de noir, mais tout un tas de nuances de gris. C'est ça, enfin, du moins.
J'ai l'impression, avec le recul, j'avais lu la pièce avant d'y aller, je me suis bien marré. J'ai vu hier soir, donc je suis marré deux fois. C'est pour ça que j'invite les auditeurs à y aller. Et la dimension culinaire est quand même le cœur du problème. C'est presque une dimension freudienne, parce que la nourriture, c'est le lieu des échanges. Mmh. Et bon, la scénographie, c'est pas pour rien que fait la part belle à tout ce qui est préparation de plats.
Ça sent la cuisine.
La cuisine, cette fameuse thèse mémoire, on va dire, parce qu'elle a 14 ans. Alors elle fait un petit mémoire sur la cuisine. Cette jeune ado qui est passionnée de cuisine.
On apprend des choses sur la Marc-Antoine,
qui sont scabreuses certes, mais sans doute vraies en plus. Mm-hmm. Donc le rapport à la nourriture, au ventre, au plein, au vide, enfin la cuisine, c'est quand même très intéressant psychologiquement.
Ben oui.
Parce que le langage est pareil en fait.
Exactement.
J'ai l'impression qu'il fonctionne sur le régime de l'alimentaire.
Exactement.
Décharger ce qu'on a à dire, et puis on... recevoir des paroles, les rendre, les redonner, les vomir, etc. Il y a, tout ça, c'est très subtil, j'ai trouvé.
Et même jusqu'au bout, parce que il y a aussi une espèce de ça, il faut pas le dire, mais il y a quand même la marinade qui arrive à la fin.
Là, j'ai pensé à Greenaway, moi. Moi, j'ai pensé au prof d'histoire fourré avec ses pages dans l'amant, le cuisinier, sa femme et le voleur.
C'est comment plus la pièce avance, et c'est vrai que tout le rapport qu'il a à la cuisine dans la pièce est vachement intelligent, parce que on a presque l'impression que les plats qui circulent à l'intérieur de la pièce s'adapte à ce qui se passe en fait. Donc ça devient de plus en plus dangereux, de plus en plus chaud, de plus en plus brûlant. Enfin voilà, non mais c'est vraiment une pièce incroyable. Moi je trouve qu'il a réussi à faire un truc là qui parle de beaucoup 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 de choses quoi. Et notamment le rapport à l'infirmité, moi je trouve est très fort.
Il y a pas eu de problème avec des plaintes d'associations de défense des personnes handicapées.
Mais non, parce que enfin alors après il y en a qui sont venus le voir, mais je trouve que justement il n'y a pas ça.
Enfin, il y a pas de voyeurisme de toute façon, c'est tellement énorme.
Exactement.
C'est scabreux, mais c'est pas obscène ou voyeuriste.
Non, ils s'en occupent. Enfin voilà, mais c'est comme des gens qui sont infirmiers, tout ça. Enfin,
après, en ces périodes aujourd'hui, c'est très à la mode de porter plainte pour un oui ou pour un non. Donc...
Je suis d'accord. Puis là, on pourrait, parce qu'il y a aussi la nudité, machin. Donc oui. On sait que voilà. Mais là, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression que les gens le prennent comme il faut. Et puis, mais c'est vrai que la belle idée de la pièce aussi, ça on l'a pas encore vraiment dit. Mais c'est que au-delà de cette mini famille qui essaye de s'en sortir comme elle peut. Sans aucune arrière-pensée, il fait se relever le père qui est donc en effet sur le fauteuil roulant.
Et voilà.
Et ça c'est une magnifique idée sur aussi comment on prend en compte théâtralement aussi cette personne, c'est-à-dire qu'elle est pas juste là comme une plante verte, elle est là, mais
il est très présent. Mais on
ne sait pas s'il comprend, ce qu'il comprend de tout ça. Et en fait, à travers la pièce, on se rend compte qui l'entend tout, qui voit tout, et qu'à des moments donnés, donc
sourit,
ce qu'on appelait les cabarets tragicomiques, c'est entrecoupé de numéros musicaux, mais qui sont l'imaginaire de l'infirme. Et ça, moi, je trouve que c'est une très belle chose, puisqu'en plus, cet infirme, avant, aimait beaucoup Elvis Presley, parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qu'il faisait, il faisait des spectacles autour d'Elvis Presley.
Expert géomètre aussi, oui.
Expert géomètre avant. Donc,
mais
c'est bien la preuve que c'est des gens, quand même, qui vivaient plutôt bien, mais qui avaient une espèce de folie à l'Alabama Monroe, je sais pas. Pour moi, c'est un couple très rock'n'roll. Même si son prof est expert géomètre. Et du coup, il faisait ses spectacles, mais qui sont pas non plus un sosie, qui n'est pas non plus... C'est très étrange, je trouve, comment il écrit ça. Et c'est pas non plus quelqu'un qui se prend pour Elvis, c'est une espèce de grossissement, comme ça, imaginaire. Et c'est vrai que toutes les chansons qui sont mises dans la pièce ont un sens par rapport à ce qui se passe. Et donc, et c'est le point de vue de l'infirme. Donc c'est quand même une très belle idée. C'est là où on voit bien que c'est pas juste parler mal de quelqu'un qui peut pas s'exprimer ou il est complet. Après c'est assez tragique parce que moi qui le joue, je dirais que je n'ai aucun lien avec personne. J'attends 40 minutes avant de dire le premier mot parce que je suis là dès l'entrée publique et tout ça. C'est vrai que j'avais pas mesuré parce que ça en répétition. Par contre, bon, quand je me mettais pas sur le fauteuil. je regardais le truc, puis je faisais mes moments.
Ouais. Et quand on a commencé, quand la pièce commence, vous êtes sur le fauteuil.
Oh, putain, c'est long, hein. C'est pas facile. Ouais.
D'être présent aussi.
Un titre est prêt, puisqu'il va falloir. Il faut en parler, hein. Vous l'avez dit, Pamela, il faut parler de ce Elvis Presley, donc le King. Il faut parler quand même de ce personnage qui est très central, que vous incarnez. Personnage en plus qui ne parle pas aux autres, c'est la question que je vous lançais tout à l'heure. Et puis personnage qui ne parle pas aux autres, mais qui ne fait pas que chanter non plus, qui parle. Il va falloir que je vous questionne un peu sur peut-être la coupure finale, sur une tirade qui n'était peut-être pas nécessaire, vous me l'avez indiqué, mais il y a quand même d'autres tirades avant ça, sur Priscilla, sur Hamburger Joe, sur la visite au président américain, donc différentes choses. Nous écoutons On Dog.
D'Elvis Presley, faut bien le dire.
Il a c'est quand même filmé,
encore un rapport à la nourriture, la boulimie, la nourriture.
L'expression, ça part en sucette.
Donc c'est tout cohérent, tout ça.
On Dog, c'est ça que vous m'avez recommandé
Oui, parce qu'elle n'aurait pas spectacle non plus, mais je l'aurais bien aimé la chanter si Dio l'avait
mis. Donc nous continuons à évoquer dans la cuisine d'Elvis, après avoir quand même bien parlé de cette de l'intrigue plus ou moins,
tous les soirs de la semaine de à Célestine à 20h30, sauf dimanche, dernière séance à 16h30,
le 21 janvier à 16h30,
1h40 qui passe merveilleusement vite,
pas d'entracte, mais c'est
très enlevé,
comme une lettre à la poste. Écoutons donc Hound Dog, une version Gérald, t'as trouvé, c'est une compilation Elvis Presley la légende,
c'est un vieux truc de
édition,
grande face,
édition Atlas, c'est très bien.
Pils édition
1997, compilation. Bon, on écoute ce Hound Dog et puis nous continuons. Il restera encore un petit quart d'heure pour évoquer cette pièce donnée au Théâtre des Célestins dans cette salle, la Célestine. You ain't nothing but a hound dog. Dog n'est donc pas dans le spectacle. Toi, tu souhaites évoquer, donc Gérald, différentes choses.
Je vais évoquer simplement, déjà inviter les gens à aller voir.
La cuisine d'Elvis.
Parce que ça vaut le coup.
Donner un bon moment au Célestin, dans la petite salle de Célestine.
Peut-être un peu choqué, mais
20h30 ce soir.
Bien. Et c'est vrai qu'ils sortiront du spectacle.
Ah bah content, avec la banane.
Avant d'arriver, c'est quand même le but, ce qu'on attend aussi d'un spectacle.
Ouais, puis encore une fois, c'est drôle, mais c'est aussi très émouvant, vraiment. Enfin, je trouve que ils sont très attachants, ces gens, quoi.
C'est différents personnages.
Ça, c'était vraiment.
Je vais faire un petit listing quand même. Traduction Louis-Charles Sirjac et Frédéric Revuz. Collaboration artistique Émilie Capliez. Scénographie Marc Lenné. Belle scénographie. Costume Zouzou Leyen aussi. Lumière Bruno Marsol. Très efficace les lumières. Ouais. Assisté de Lucie Cardinal. Le son Pierre Routin. Collaboration musicale Howard Hux, Ben Lupus, Billy Jet Pilot. Habillage et maquillage Emmanuel Thomas. Régie générale Patrick Lejoncourt. Coiffure, maquillage et postiche Cécile Kretschmar. On ne sait pas ce que sont les fastiches et les petits trucs. Réalisation des costumes, Ouria Damani Couli. Et construction du décor, atelier de la comédie de Saint-Étienne.
Voilà, où le spectacle a été créé.
Voilà, Gérald, ne nous fais pas croire que nous avons terminé, que nous avons fini de parler de cette pièce, parce qu'il nous reste encore du temps. Et puis, quand même, Pierre Maillet, vous qui êtes donc le metteur en scène et qui incarnez Elvis, parce qu'il n'y a pas de nom pour ce Dad, non? Il s'appelle Dad.
Non, il s'appelle Dad. Et
il faut en parler de ce Dad. Donc, c'est ce fameux parapluie, tétra. Enfin, du moins, plégique.
Il est dans un fauteuil.
Dans un fauteuil. Et qui chante, nous disions juste avant, il ne chante d'ailleurs pas Hound Dog, il ne chante pas non plus Blue Moon, on écoutait tout à l'heure. En revanche, il chante bien Jailhouse Rock.
Ouais.
Donc ce Elvis qui chante, il parle aussi.
Et alors, il parle aussi, et là, c'est ce qui est aussi très, très beau dans la pièce, c'est qu'on a donc le trio Mam, Fee et Stuart, et lui qui est là dans son fauteuil. Mais donc la belle idée qu'on disait tout à l'heure, c'est que Lio le fait se relever, le fait chanter, et que quand il parle,
des moments oniriques.
C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que c'est dans sa tête, est-ce que c'est des extraits d'avant, est-ce que c'est des flashbacks de son spectacle d'avant. Mais après, ce que j'aime beaucoup dans ces textes, ils sont vraiment, alors pour le coup, n'a rien à voir avec ce qui se passe à côté. C'est complètement. C'est important qu'on puisse se dire aussi que c'est presque de l'impro. Pour moi, c'est comme du stand-up en fait. C'est-à-dire, c'est un espèce de type qui fait.
Comme à la Vegas.
Voilà, qui adore cette figure, qui en fait son show à lui, qui n'essaie pas d'ailleurs d'imiter Elvis. Alors après, c'est mon choix. Peut-être d'autres gens pourraient faire autrement, mais je trouve que c'est très beau justement de se dire. Cet homme-là avait un vrai rêve autour de cette figure d'Elvis, de machin, et j'aime bien le fait que je ne lui ressemble pas du tout. Enfin, moi et Elvis, c'est vraiment pas plus loin.
Vous avez raison, je vous coupe une seconde, vous avez raison. Il y a une didascalie de Lee Hall qui dit bien, quand Dad commence à chanter la première fois, Oh, I feel my temperature rising, il est écrit, c'est du très mauvais Elvis. Mm-hmm. Donc, je pense que vous commentiez tout à l'heure peut-être d'autres mises en scène, laissant entendre que. Peut-être y avait-il un peu d'erreur, ben carrément. Enfin, disons, si on part que dans du ridicule, ou alors si on pense, pour le coup ici plus précisément, si on pense que qu'il est une sorte d'Elvis réincarné, il est totalement convaincu d'être très bon, ben peut-être est-ce le cas pour lui, mais en fait non. Enfin, c'est mauvais.
Et après,
enfin,
mais ce que j'aime bien dans cette didascalie, c'est que
on dirait un numéro calamiteux de club de seconde zone.
C'est ça, c'est qu'il faut qu'on ait ça. Mais je veux dire, à un moment donné, moi, je suis pas Elvis, je suis pas chanteur, donc c'est déjà un peu ridicule. Que je me prenne pour une figure comme ça. Enfin, ouais, enfin, c'est déjà drôle, plutôt. C'est pas assez ridicule, mais bon, c'est décalé. Pas du tout, c'est décalé. Et moi, cette figure-là, je trouve que c'est bien. Mais après, avec Howard Hughes, Billy Jet Pilot et Ben Lupus, parce que c'est ça aussi. Moi, j'avais pas envie que c'est que le truc karaoké, puis qu'il vient faire ses. Parce que là, pour le coup, ça, je trouve cette fois ça. Au bout d'un moment, ouais. C'est bon, on a compris, ouais. Quoi. Et que quand même, cette figure, elle puisse aussi évoluer, qu'on puisse sentir une recherche musicale aussi, enfin, qu'il s'en empare et que ça soit pas juste du mauvais karaoké. C'est que je trouve que cette didascalie de Lio, elle donne une indication, mais je veux dire, elle peut pas être non plus ça tout le temps.
Non.
C'est-à-dire, il faut qu'on puisse quand même cette figure ait une. Et après, tous les textes sont quand même tellement gros, tellement grossis, tellement que bon, on l'a le côté, le second degré, je veux dire, par rapport à cette figure. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais c'est vrai que j'aimais bien l'idée que, voilà, il puisse y avoir un vrai univers musical, que d'ailleurs, dans les différentes chansons,
vous l'avez dit, c'est donc tout réorchestré, hein, c'est ça? Ce sont d'autres instruments,
quasiment à Elvis.
Voilà. Et je trouvais ça bien parce que c'est plus une citation
qu'une
véritable
mélodie, voilà. Mais alors l'orchestration rien à voir, la voix rien à voir,
les instruments et tout est.
Et après on comprend que c'est le rêve d'un homme par rapport à Elvis, mais c'est pas Elvis.
Et ces textes sur le Hamburger Joe ou sur sa visite au président américain ou sur Priscilla j'ai acheté 10 Mercedes, enfin c'est
je crois ça.
D'où est-ce que Lee Hall tire tout ça et vous qu'en faites-vous sur scène?
Enfin quoi? Lee Hall tire de tout ça de vraies choses.
Oui,
enfin, c'est extrêmement grossi, mais c'est clair que le rapport à la bouffe d'Elvis Presley, enfin il en est mort. Enfin faut arrêter à un moment donné. On dit il est mort sur ses toilettes. fait. Je ne sais pas pour rien.
J'ai mangé deux douzaines de croissants.
C'est un homme qui a explosé, littéralement. Mmh. Enfin, c'est quand même le cas. Mmh. Et après, après on ne dit pas ça parce que, voilà, on dit qu'il est mort, je ne sais pas quoi. Mmh. Il est contre la drogue, il est bourré de pilules, ça c'est vrai.
Il est homophobe.
il est homophobe. Enfin, il est, dès qu'il sentait que quelqu'un pouvait être. Il avait un prof de. Parce que du coup, je me suis renseigné, j'ai lu sa biographie,
ouais,
tout ça. Et il a, dès qu'il sentait que quelqu'un pouvait avoir une sensibilité entre guillemets homosexuelle, il le virait. Ça lui faisait peur en fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas contre, mais ça le tétanisait. Donc après, on va laisser les psychanalystes analyser ça. Mais en tout cas, c'était presque phobique. Et ensuite, la visite au président américain a eu lieu. Il est vraiment allé voir Nixon. Ils se sont parlé en huis clos pendant 20 minutes. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, ils se sentaient investis d'une mission quand même, d'aller parler du pays avec le président. C'était donc et puis c'est quelqu'un qui aussi s'est pris à un moment donné pour Dieu. Il y a des conférences de presse où on a Dieu, Elvis. Enfin, je veux dire, c'était quand même quelqu'un. Donc il y avait une démesure et que Liol retraduit complètement par rapport à un délire.
Grossissant un tout petit peu finalement.
Et
pas
c'est
tant
ça.
Que ça.
Et du coup, je c'est comme ça que je l'ai pris. Je me suis dit, ce type fait un à partir d'une figure énorme. Au-delà du fait que c'est pas un sosie qui adore cette figure, je pense que ce qu'il aime, c'est la démesure que ça représente, c'est l'imaginaire que ça évoque à cette personne. Mais je pense que l'humour qu'il y a dans les monologues de Dad traduisent bien que c'est pas juste Elvis, c'est un dieu. Il y a aussi une critique derrière. Il y a
l'esprit américain, peut-être, de la première puissance mondiale, à une époque, il y a la grosse tête,
ça,
le justicier, quoi. Les USA justiciers, à une époque, sont en train de changer, mais bon, on sent ça derrière. Hein, peut-être une petite critique caustique de la part d'un auteur anglais pour les Américains.
Est-ce qu'en 98, le thatcherisme était terminé
Oui, politiquement des choses, mais je pense que de toute façon, ça a mis du temps à s'effacer, tout ça.
Il y a eu des dégâts.
Alors là, très clairement. Donc c'est vrai que on a quand même entre le prolétariat représenté par l'empathie, la bonté, la générosité de Stuart, cette classe moyenne mise à mal un petit peu par une catastrophe de la vie, et ce type qui a ce rêve. Mais je pense qu'il est loin. Enfin, il sait très bien ce qu'il fait. C'est-à-dire que Dad, je pense que c'est pas juste un fan qui aimait bien chanter Elvis. Je pense qu'il y a une critique à travers cette figure de la vie et de la démesure qui passe forcément par quelque chose de, pour le coup, de cabaret de seconde zone, mais de, comme tous les comiques qui s'essayent à des choses. Donc on a à la fois le rêve d'un homme avec des chansons et qui quand même, ces chansons-là sont choisies parce que aussi ça raconte ce qui se passe dans la pièce et son point de vue musical sur ce qui se passe. Et puis, cette folie qui déboule. Moi, je trouve que c'est quand même une très très belle façon de parler de quelqu'un qui est coincé. Je sais pas. C'est pour ça peut-être qu'on n'a pas trop.
On ne parle plus de nourriture là. Il est coincé, mais c'est verbal ou c'est physique, enfin du moins.
Et après, quand même, elles ont trois thématiques, quoi, les trois interventions du père en texte. C'est il y a la bouffe au début. Le fait qu'à un moment donné il arrive plus, enfin il est impuissant, donc le rapport à la sexualité aussi arrête, enfin coincé encore une fois, et puis la démesure après avec le pouvoir et le président américain. Donc
colosse au pied d'argile.
C'est fait exprès, auditeur. Peut-être avez-vous l'impression, peut-être Pierre Maillet l'a-t-il lui aussi, et également toi Gérald, que nous n'avons pas tout dit sur la pièce. C'est fait exprès, il faut aller voir cette pièce pour vérifier si ce que nous avons dit correspondait bien à un spectacle intelligent et désopilant, c'est comme ça que je le qualifiais, pour vérifier si ce que nous avons dit était, enfin bref, pour n'importe quelle raison, auditeur, allez voir donc cette pièce. Les tarifs, je ne les ai plus sous les yeux. Les tarifs, de toute façon, ils sont très, très corrects, non, au Théâtre des Célestins. Il y a toute une gamme de tarifs.
Tout à fait abordable.
Différentes choses. C'est donné jusqu'à ce dimanche 21 janvier, 20h30 en soirée, 16h30.
1h30, 1h40 de spectacle.
Ça, 1h40 qui passe vraiment très rapidement. Pas d'entracte, donc au moins.
Et donc, bord de scène,
on est assis. Après,
ce soir.
Ouais,
voilà, c'est mercredi 17, bord de scène. On rencontre avec les comédiens,
si on peut taper des restes sur le plateau parce qu'il cuisine un peu. Gérald, pour terminer l'émission,
j'aimerais faire une petite annonce quand même. Ce soir, si vous ne savez pas encore quoi faire, vous avez envie de sortir, le Hot Club Jazz de Lyon, vous pouvez aller au théâtre. Ou alors vous pourrez aussi aller au théâtre plus
tard. Est-ce qu'on peut enchaîner?
Peut-être que vous pouvez enchaîner, mais ça va peut-être coincer.
Bon, pour ce soir, alors.
Bon, alors. J'en parle quand même, hein, donc c'est du jazz vocal en première partie à partir de 21h avec Silva L et Fred G qui proposent des jazz songs Around the Corner, leur nouveau duo de chansons de jazz en anglais et en français. Donc une belle voix que je connais, un piano, une esthétique jazz, une envie de raconter des histoires émouvantes ou drôles. On pourrait écouter un extrait d'ailleurs qui s'appelle Send Me to the Electric Chair, je crois. On va l'écouter.
Si tu le lances, a priori,
allez,
ça pourrait fonctionner.
On va essayer, ça devrait marcher. C'est un cloud, SoundCloud, comme c'est à la mode maintenant.
Gérald, je crains qu'il n'y ait rien qui démarre. Là.
Ça arrive.
Ça va arriver ?
Ouais, c'est parti.
Ah non, mais attention, Gérald, mon Dieu, il faut également un autre élément. Attention,
ah bah oui, j'ai pas de courant,
tout ne se diffuse pas par de l'Internet, mais tu es d'une naïverie sans borne, mais c'est pas possible. Ta naïvitude confine. Oh mon Dieu, allons-nous nous en sortir. Il reste 2 minutes, Gérald. L'émission Blues des Canyons aura bien lieu aujourd'hui. Ils sont dans les starting blocks. Ouais. Si, ça marche. Avec quelques instants de cet extrait. Ah bah ça a recoupé, Gérald, à la seconde. Voilà. I do cut my good man's throat. I caught him with one of those trifling chains. I warned him a lot of times before. This time I had my knife and I went insane. And the rest you already know. Oh, judge, judge, please, Mr. Judge, send me to the electric chair. What I saw. So judge, judge, please, Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, judge, lordy, lordy, judge, send me to the electric chair. You know, ça c'est le jazz de ce soir, Pierre Maillet. Ce soir, vous êtes dans la Célestine.
Oui.
Pour la cuisine d'Elvis, et puis un peu plus tard, oui, vous reprenez ce spectacle.
Oui, il continue encore un petit peu en tournée après, à Verdun, Maubeuge, Vire, Alençon et Flers.
Les renseignements, on les trouve sur le site des Lucioles, peut-être.
Sur le site des Lucioles, et
je mettrai cela en lien sur le blog.
Oui.
Gérald, d'autres projets ?
Ah bah, et oui.
On plus ça à 15h, Gérald. Il faudra, en ce cas, revenez peut-être.
Peut-être une piste.
Mon prochain projet, c'est Angels in America de Tony Kushner.
Ah, mais ça, c'est connu, ça. Comédie musicale, film également, série, je crois, des
encore
différentes choses.
Voilà.
Bon. Auditeur, il y a également Sainte dans l'incendie qui est encore donnée au théâtre de la Croix-Rousse. Nous recevions la semaine dernière Laurent Fréchuret et Laurence Vielle. Bref, il y a plein de choses à faire. Dans la grande salle, j'en reparle encore Margot et puis plus tard encore beaucoup de choses. Célestin notamment, Opéra de Lyon, il y a des choses qui arrivent. Bref, allez, à 15h, c'est Blues des Canyons qui commence. Laissons la place à Pascal. Merci beaucoup Pierre Maillet. Rendez-vous une fois prochaine.
Oui.
Merci Gérald, merci Cyprien, merci Magali. À la prochaine fois, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu.
La semaine prochaine.
Bien. On va mettre semaine prochaine Louise Vigneault au Clochard Céleste pour un spectacle qu'elle donne actuellement au TNP qui commence d'ailleurs ce soir
que
ou demain.
Que de théâtre depuis la
Misanthrope.
La reprise 2018.
Si tu veux de la musique, on en mettra bien.
Il va falloir inviter des
mettons la musique
et des plasticiens bientôt.
Elvis Presley pour se quitter, Blue Suede Shoes. Bon après-midi tout le monde, salut. Merci Pierre, au revoir.
Merci. Stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes.